Hey! Bonjour tout le monde. On est à la première épisode officielle de la French Connection. Donc, aujourd'hui, on a le Québec avec nous, l'Europe étant absent. Donc, on a Nicolas. Salut, Nick.
Salut.
Richer parmi nous aussi. Salut, Richer.
Salut.
Et Guillaume.
Hello.
Donc, en tant qu'absent, on a Damien et Paul qui sont en Europe, mais non disponibles pour le premier épisode. Mais ils sont dans les deux autres épisodes on release et spéciaux qui vont sortir prochainement aussi. Donc, qu'est-ce que la French Connection, encore une fois, c'est un podcast Québec-Europe, concept international, et on va faire des nouvelles, on va revoir quelques discussions et un segment technique avec Guillaume aujourd'hui. Donc, on peut faire un mini tour de table, juste vous présenter quelles sont vos expertises. Guillaume, commence avec toi.
Oui, moi c'est Guillaume, donc je travaille en sécurité depuis pas mal longtemps, surtout côté Blue Team. Avant d'être en sécurité, je faisais beaucoup d'architecture en TI, fait que tout ce qui est defense, tout ce qui est monitoring, puis architecture de sécurité, c'est ça qui est ma spécialité. Puis côté hobby, j'ai fait un peu de recherche, surtout côté sécurité mobile.
Yes, Richer.
Moi, de mon côté, c'est surtout au niveau administration et administration de réseaux et de systèmes depuis un bon bout de temps. Et côté sécurité, ça fait quand même un bout de temps par intérim, vu que je fais de l'administration en même temps. Mais officiellement, je fais pas de pentest en tant que tel. Chose que j'aimerais faire à un moment donné, ça serait bien le fun. Mais donc, c'est ça.
All right, Nick?
Moi, j'ai fait mes classes en tant que sysadmin il y a fort longtemps avant de transférer en sécurité. J'ai fait le chemin classique, c'est-à-dire j'ai commencé par les pentests pour tranquillement transitionner vers de l'architecture puis du système conseil puis un petit peu de gouvernance dans le tas.
Ah, mon monsieur cravate. moi, Patrick, parcours plus hacking, pentest, cégep université. Co-fondé le Hackfest avec Nick et travaille aujourd'hui côté plus offensif à Red Team. Donc, commençons le tout avec quelques nouvelles. Je vais y aller avec toi, Richer, pour débuter.
Oui, donc comme première nouvelle que j'avais, c'était, ça fait quand même un petit bout de temps, c'était la fin novembre qu'il y avait ça, c'était Gulligan, un beau petit malware pour les Android. Donc, Cette application-là fait en sorte que c'était capable de pouvoir router le téléphone, si possible, ou le téléphone ou tablette. Et si tu es capable de pouvoir router ça, à ce moment-là, tu es capable de pouvoir faire ce qu'il voulait après et prendre contrôle complètement de l'appareil et pouvoir avoir accès aux comptes Gmail et toutes ces petites choses-là. Donc, c'est quand même assez, on pourrait dire, problématique. Ça touche quand même un bon nombre d'appareils et jusqu'à date, ça montrait comme quoi que ça avait hacké jusqu'à 1 million de comptes Google. Et ça attaque surtout les Android 4.x, donc Jelly Bean, KitKat, et Lollipop avec le 5.x. Et donc ça, en partie, ça couvre jusqu'à 74% des devices Android aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez problématique. Donc, on a le lien aussi vers l'article qu'on pourrait rajouter dans les show notes pour donner un petit peu plus de détails.
Yes, est-ce qu'il y avait une patch reliée à ça ou...
Celui-là, comme c'est là, les patchs, j'ai pas vu qu'ils étaient marqués comme quoi qu'il y avait de quoi qui était patché pour l'instant. Mais comme c'est là, il y avait les exploits qui étaient présentés avec des CVI, là, des CVE là-dessus. Là.
D'accord. La prochaine nouvelle, je pense que presque tout le monde peut en parler. Yahoo qui s'est fait ramasser une deuxième fois de manière extrêmement majeure. Richer, exact. Tu veux continuer?
Yes, exactement. Donc, comme c'est là, il y a eu plus d'un milliard de comptes qui ont été exposés. Et c'est pas... On avait déjà entendu parler d'une autre attaque qui avait été faite, une autre brèche qui avait été faite dernièrement, mais ça, c'en est une autre qui serait distincte, qui aurait eu encore plus... qui serait passée au mois d'août, en fait, qui est le 13 août. Et qu'il y aurait encore plus de personnes qui auraient été... leur information aurait été leakée, qu'on pourrait dire. Et donc, à ce moment-là, c'est la manière, en vérifiant que le forensics qu'ils ont pu trouver, c'est qu'il y aurait une façon de pouvoir forger des cookies qui permettrait de pouvoir avoir un accès directement sur les comptes des personnes. Donc, dans le fond, se faire passer pour un compte d'un autre directement en forgeant les cookies d'une certaine manière. Donc, c'est assez plate parce que c'est pas quelque chose qu'on espère. Et dans le fond, en bout de ligne, ça fait plusieurs milliards, un bon milliard de comptes qui ont été leakés. Entre autres, il y a les Yahoo qui est en négociation pour pouvoir être acheté par Verizon. Il était marqué pour 4,8 milliards. Et déjà en septembre, avec les problèmes qui avaient été révélés, il avait voulu baisser la valeur de 4,8 à 3,8 milliards. Ce qui fait que c'est quand même pas drôle de pouvoir faire baisser la valeur à ce point-là. Un milliard, c'est quand même pas mal. Je sais pas si c'est compté par le nombre de personnes, mais bon, fait que ça, à ce moment-là, un milliard, c'est ça.
Donc, mais ça laisse penser qu'il y a peut-être de la magouille financière en arrière de ça.
C'est ce que je pense, mais tu sais, je veux dire, c'est un long shot qu'on pourrait dire, mais c'est parce que ça regarde... Ça peut être vu normalement, de façon normale, que dire, bon, mais regarde, on t'est plus à risque, fait que tu vaux peut-être moins cher, mais il y a peut-être aussi en arrière, tu sais, que c'est-tu voulu, c'est que c'est fait comme ça. Ça, on le saura pas vraiment, mais c'est quand même triste à voir, là. Que c'est, pour eux autres, je trouve ça plate, là.
Pour Yahoo, c'est de mal en pis, là. C'est comme une désintégration très malheureuse de leurs affaires. Mais c'est une question, ce qui me donne penser que c'est peut-être arrangé avec le gars des vues, c'est une question de timing ou le timing des révélations sur des leaks qui datent quand même certains temps dans certains cas, est étrange vu la négociation qui est en cours.
Oui, mais c'est ça. Il parlait qu'il y avait celui du mois de septembre déjà là qui avait fait baisser d'un milliard. Puis après ça, celui qu'on vient de parler, ça date du mois d'août. Donc c'est comme ils reviennent en arrière, puis en arrière, puis en arrière. C'est assez spécial. Tu sais, encore là, tu sais, ils ont trouvé ça, c'est plate. Mais c'est comme tu dis, ça semble être arrangé avec le gars des vues, mais on peut pas être certain à 100% par rapport à ça. C'est vraiment bizarre.
Verizon sont peut-être bien contents, finalement.
Ouais, bien contents, mais tu sais, à quelque part, moi, personnellement, faire acquisition d'une compagnie qui s'est fait leaker en masse, je trouve pas ça une bonne chose, là, mais...
Oui, non, je suis content de pouvoir l'annuler, là, mais...
Ah ouais, c'est ça, mais peut-être l'annuler, mais ça semble pas être le cas présentement. Ça semble être... Ils sont optimistes là, jusqu'à date à ce que ça puisse se faire quand même, mais et rapidement, mais c'est quand même... On va voir là, qu'est-ce que ça va donner. Là. Ça va être de voir dans les prochains mois.
Exact. Puis l'autre chose qui est assez intéressante, c'est sur le marché noir, présentement, il y a une page à quelque part qu'on peut acheter, ou je pense même que ça a déjà été acheté, le leak au complet pour 300 000 $. Donc, même pas une pièce par compte, évidemment, mais encore pire, dans le leak... de 1 milliard d'utilisateurs, on s'entend qu'il doit y avoir énormément de doublons. Là.
Oui, mais il y a aussi le fait qu'il va y avoir des informations comme soit les dates de naissance, qui fait que c'est pas vraiment intéressant. Ouais. C'est pas vraiment le fun que ce soit...
Adresse, date de naissance, nom, courriel, mot de passe. Puis le mot de passe, c'est un super MD5 qui est généré avec, je pense que c'était le username, le timestamp, puis une couple d'affaires qui sont pas si compliquées que ça, mais que finalement, en ayant accès aux sources, ils ont eu la possibilité de craquer et faire les cookies, toute la quête
complète. Ouais. Donc, c'est triste.
Yeah, exact. Donc, on verra ce que ça donne pour Yahoo, mais c'est effectivement très mal parti avec les deux derniers hacks et toutes les histoires qui s'est passées reliées au manque de sécurité. Même des fois, il n'y avait pas juste un manque, mais un manque de volonté là, de ce côté-là. Yes, on va switcher prochaine nouvelle avec Guillaume, les attaques locales sur FDA.
Oui, donc ça fait plusieurs années que de temps en temps, il y a des nouvelles attaques sur les technologies de chiffrement de volume ou de disque. Donc c'est pas nouveau, mais il y a une technique qui est sortie récemment pour Mac, donc ça attaque FileVault spécifiquement. Donc c'est Ulf Frisk qui a fait cette découverte-là. Donc, en gros, ce qui arrivait, c'est que si vous utilisez FileVault, Le mot de passe de FileVault était gardé en mémoire à quelques endroits en clair, dont certains endroits qui c'était toujours à la même place dans la mémoire. Puis la protection d'accès direct à la mémoire, le DMA Protection, n'était pas actif au moment où le EFI démarrait. Ça attendait que vraiment que l'operating system boot avant d'activer la protection de la mémoire. Donc, si vous aviez un laptop qui roulait macOS, mais en l'éteignant puis en le rallumant pour qu'on retombe au EFI, on pouvait lire la clé qui était encore en mémoire parce qu'elle n'avait pas été flushée. Donc, à partir de ça, être capable de décrypter FileVault. Donc, c'est quelque chose qui a été patché dans le dernier release de macOS 10.12.2. Je ne sais pas si ça a été patché dans les releases de 10.11. C'est assez difficile avec Apple, des fois, de savoir si les patchs s'appliquent, les vulnérabilités sont corrigées dans les anciennes versions, mais ça ne me surprendrait pas que non. En fait, c'est une patch EFI, donc ça dépend un peu du hardware aussi. Fait que c'est pas clair si c'est réglé sur vraiment tous les modèles, mais je pense qu'un truc qui est important, si vous utilisez du full disk encryption, vous êtes quand même assez à risque, t'sais, vous voyagez beaucoup, pour n'importe quelle raison. Utilisez les settings de votre système d'exploitation pour limiter les chances que les clés soient faciles à aller lire. Donc, par exemple, sur Mac, il y a l'option qui est « Destroy FV Keys on Standby » qui s'assure qu'au moment où on tombe en standby, les clés soient effacées de la mémoire. Donc, je ne sais pas si ça aurait prévenu cette attaque-là spécifiquement, mais d'après moi, ça l'aurait probablement rendu plus difficile. Puis aussi, vous assurez que votre mode d'hibernation il est configuré d'une manière à ce que vous ne soyez pas toujours en standby quand votre laptop est, par exemple, fermé pendant plusieurs jours. Je vois assez souvent, surtout en entreprise, des gens qui utilisent du full disk encryption avec soit des mots de passe, du boot automatique, tout est en standby tout le temps, donc c'est pas très très efficace. Donc spécialement si vous êtes quelqu'un qui est très à risque, comme par exemple un journaliste, quelqu'un qui passe souvent à des frontières où vous êtes peut-être vous allez vous faire saisir de l'équipement, je pense que c'est assez important de faire attention à où est-ce qu'on laisse nos clés. Donc le lien est dans les show notes pour ceux qui s'y intéressent, puis sinon assurez-vous d'être sur 10.12.2 pour réduire les chances que cette attaque-là fonctionne sur votre Mac.
Est-ce que ça ressemble beaucoup à le maid attack, dans le sens où on arrive rapidement puis on est capable, ça sent la même lignée de réflexion de type d'attaque?
Bien, c'est un peu similaire, mais étant donné que Thunderbolt peut donner accès direct à la mémoire, tu sais, il n'y a pas grand chose à faire sur le laptop comme tel, autre que l'éteindre, connecter un périphérique externe, le démarrer, puis là, on a un accès direct à mémoire.
Ouais, la clé. C'est même plus facile parce le maid attack avait comme un délai de dégradation de la mémoire que dans lequel tu devais te dépêcher. Comme dans là, t'es direct, pouf, puis comme dans le fond, l'attaque un peu firewire, similaire, il y a plusieurs années en arrière aussi.
Oui, bien, c'est ça. C'est très, 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 très similaire. Donc maintenant, avec les systèmes qui ont été mis à jour, la protection DMA s'active avec le EFI, donc ça devrait rendre ce genre d'attaque-là un peu plus compliqué dans le futur. En fait, probablement que maintenant que ça a été corrigé puis que le EFI va protéger contre le DMA, probablement que Mac va être une des plateformes qui est la mieux protégée contre ça, mais c'est un peu nécessaire parce que Thunderbolt à l'époque, en fait FireWire, c'était possible de le désactiver puis de dire bon, mais j'utilise pas vraiment FireWire, je vais désactiver le port FireWire dans la configuration du firmware. Mais maintenant que tout est USB-C, tout est Thunderbolt 3, c'est comme presque impossible de le désactiver. Donc, il n'y a vraiment pas le choix de mieux le protéger.
Ben, c'est une belle, en soi, une très belle avancée là, que ces recherches-là amènent. Là.
Absolument.
Mais avec le hack du FireWire d'avant, il n'était pas supposé d'avoir fixé ce genre de problème-là? Ou c'était vraiment pas la même chose?
Je pense qu'il n'avait pas corrigé la possibilité d'accéder à la mémoire à travers le BOSS pendant que c'est le EFI, donc c'est la protection était rajoutée au niveau du système d'exploitation seulement. Ça devrait être plus complet comme protection.
Ouais, ok. Je trouvais ça louche parce que c'est carrément la même attaque, mais petite différence près. Là.
Ouais.
Excellent.
Et juste pour montrer aussi, mm-hmm. Il mentionnait que c'était, comme tu disais, Guillaume, c'est 10.12.2, il n'y a pas de mention comme quoi que c'est patché dans les autres versions antérieures pour admettons, Mountain Lion ou les autres versions.
Mountain Lion, là, je pense que tu recules assez loin. Je dirais qu'il y a probablement zéro chance qu'il soit corrigé.
Probablement.
Mais même El Capitan, pour lequel il y a encore... Normalement, Apple, c'est les deux releases d'avant qui sont encore patchés. Mm. Mais là, c'est une patch à moitié firmware, à moitié système d'exploitation. Donc, je ne serais pas très, très surpris si même 10.11 n'était pas corrigé.
Mm-hmm.
Oui, mais ça va pas un peu contraire à leur philosophie de protection des informations, des espèces de sorties publiques qu'ils ont faites, là, qui protègent l'individu, tout ça. S'ils ne font pas l'effort de retourner deux versions en arrière, ça va, c'est un peu contraire à leur philosophie.
Ben, pas tant que ça, parce que si on regarde sur iOS, ils forcent les gens à monter à l'autre version. Tu sais, donc, par exemple, iOS 9 n'est pas du tout patché en ce moment, c'est vraiment juste iOS 10. Ils vont dire, oui, on vous protège, vous avez juste à upgrader. Mais c'est certain que 10.12, c'est la première version depuis quand même assez longtemps qui introduit des nouveaux modèles qui sont complètement désuets. Là. Et donc, il y a certains Mac qui pouvaient rouler 10.11 qui ne peuvent pas rouler 10.12 à moins de faire un hack pour l'installer. Donc, c'est effectivement, s'il n'est pas corrigé, il y a des gens qui ont encore des laptops qui sont peut-être utilisables, qui marchaient bien, qui pourront pas mettre la patch. Dans ce cas-là, je recommanderais de regarder pour activer Destroy Firewall Keys on Standby, qui pourrait peut-être améliorer un peu la résistance.
Excellent. Dans une nouvelle un peu semblable, on a le Ubuntu qui a un exploit pour l'attaquer à distance, un RCE. Remote Code Execution, via l'application la moins populaire ou que tu dirais j'attaquerai pas ça, ça fait pas vraiment de sens. Mais c'est l'application qui envoie les problèmes qu'une application crash. Donc l'application qui permet d'envoyer à Ubuntu le crash, il y a moyen d'y faire exécuter un certain code pour à distance avoir accès à la machine au complet. Donc, il y a comme une popularité qui s'en va sur le fait d'attaquer les desktops Linux. Et évidemment, il y a beaucoup de plus en plus de monde qui sont sur ça. Et ça risque de devenir quand même assez populaire là, d'exploiter ça. Faites vos mises à jour si vous utilisez Linux et Ubuntu, évidemment.
Puis c'est quoi le vecteur d'attaque qu'il faut faire? Crasher une app pour générer quelque chose ou c'est à travers le réseau?
Le truc, c'est d'ouvrir un fichier, en fait, de crash file.
Qui est un point crash, là?
Oui, exactement. Qui est envoyé, évidemment, comme d'habitude, soit par courriel, soit autre. Le remote est un peu poche, là, de la manière que je l'ai lu. Mais ça reste que si tu as accès à faire exécuter cette application-là à distance, avec un payload spécifique, t'es capable d'exécuter du code Python à distance.
Puis c'est probablement une sorte de fichier qui n'est pas nécessairement scanné ou bloqué par les serveurs de courriel, ça, mais c'est pas vraiment un remote code execution dans le sens que ça prend quand même une interaction de l'usager puis que ça se fasse local. Là. C'est un peu comme dire il y a un remote code execution dans Bash si je t'envoie un script Bash. Là. Mais c'est un vraiment nouveau type de fichier que probablement qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font attention.
C'est du RICE, c'est du Remote Indirect Code Execution.
OK.
Exact. Non, j'essayais de voir comment ils font, mais c'est vraiment maliciously booby trap crash file. Fait il y a peut-être moyen de mettre cette
booby trap.
Mais moi, en fait, le vecteur le plus intéressant que je vois avec ça, c'est pas en fait pour attaquer nécessairement les utilisateurs de Ubuntu, mais plus les développeurs. Donc, la première personne qui a trouvé ce bug-là, ben, tu submit des vrais points crash comme si ton système d'exploitation avait crashé. Puis, il y a probablement quelqu'un qui travaille sur le software qui va l'exécuter sur son poste à lui, tu sais.
Yeah, exact.
Les développeurs de chez Canonical, par exemple.
Ouais, ou n'importe quoi relié à leur équipe de développement ou des développeurs d'applications sur Ubuntu ou autre permettrait de faire ça. Mais évidemment, c'est vraiment un beau clickbait title. C'est pas du remote, mais du bon code execution via un fichier. L'autre nouvelle, deux nouvelles intéressantes. On a Ashley Madison qu'on a eu finalement un suivi sur leur breach. Ils ont été obligés de... Bon, en tout cas, je ne suis pas sûr qu'ils l'ont fait encore, mais ils se sont fait demander de payer 1,6 million de dollars pour leur breach par la FTC et 13 États américains qui leur ont demandé de payer à cause de leur mauvaise sécurité, du fait que ça a causé beaucoup de problématiques et même le fait que dans leur site web, tu avais la possibilité de payer 20 $ pour supprimer ton compte à 100% de la base de données. Ils ne le faisaient même pas. Fait qu'ils faisaient juste collecter des 20 $. Tout ça a fait en sorte qu'ils ont payé seulement, tant que moi, c'est pas beaucoup, 1,6 million de dollars pour 36 millions d'acomptes volés. Et aussi intéressant, j'écoutais l'émission Cyberwar. Je ne sais pas si vous avez écouté ça un peu.
Non, pas du tout. Je connais même pas, je sais même pas c'est quoi.
C'est quand même cool. Vice a fait un documentaire sur le hacking qui s'appelle Cyberwar. Le titre. Mais ce qui est, ils ont parlé à une émission pas mal juste sur toutes les attaques d'Ashley Madison. Et on s'entend que la plupart des femmes sur le réseau étaient des robots. Ils ont confirmé que c'était des robots, même dans le leak, ils ont identifié. C'est ça, ils montraient quelle personne étaient des robots sur le site web. Puis le premier robot a été arrivé dans toute la base de données et le user numéro 5. Donc on s'entend que ça faisait partie du plan d'affaires. C'est pas quelque chose qu'ils ont décidé de faire après plusieurs années. Là. C'était direct en partant. Donc, ça a l'air que le président aurait dit qu'il ferait plus de robots pour la suite des choses, mais ça reste à voir.
Bon, en tout cas, je pense que c'est pas une super grosse amende considérant tout ce qui s'est passé.
Non, exact. Et juste avec les 20$ qu'ils ont récupéré pour ne pas effacer la base de données, peut-être que c'est déjà payé juste avec ça, tant qu'à moi. Là. Yes. Dernière nouvelle, Shadow Broker, ceux qui avaient piraté la NSA avec leur outil en ligne, tous les exploits, les programmes pour faire du piratage et autres, ils avaient mis ça en auction pour faire des bids. Le plus haut aurait gagné le tout. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Ils ont décidé de mettre tout simplement en vente chacun des logiciels un après l'autre. C'est présentement en ligne, on peut acheter les exploits ou les programmes quelconques que la NSA avait développés. Donc, ça se peut qu'il y ait beaucoup de CVE qui sortent par rapport à ça prochainement. Yes, ça fait le tour des nouvelles. Il reste deux petits sujets. On a une discussion et le segment technique. Je vais y aller avec le segment technique à Guillaume.
Oui, donc cette semaine, on a un segment technique qui est plutôt côté Blue Team. Donc, un outil qui est vraiment intéressant, surtout si vous avez un environnement qui est hétérogène. Vous avez beaucoup de serveurs Linux, vous avez des Mac. Maintenant, ça marche sur Windows aussi, mais c'est certain qu'il n'y a pas encore une parité au niveau de la fonctionnalité. C'est OS Query. Donc, c'est quelque chose qui est utilisé quand même assez de façon assez intensive par les grosses compagnies web qui ont vraiment beaucoup de logiciels open source, qui ont des gros packs Mac, qui ont des gros packs Linux. Donc, c'est un logiciel endpoint, c'est open source, c'est Facebook qui l'a créé. En gros, ce que ça permet de faire, c'est, comme son nom le dit, OS Query, c'est faire des requêtes sur un paquet d'attributs du système d'exploitation qui sont recueillis dans des tables. Puis ces tables-là bien, peuvent faire partie de packages. Donc, un package, c'est comme une collection de queries qui utilisent différentes tables. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie OS Query sur Windows, Linux, Mac. Puis, on configure pour donner des cédules à certaines requêtes. Donc, par exemple, si vous avez beaucoup de Mac dans votre environnement, puis avec des utilisateurs qui utilisent des navigateurs web, bien, vous allez peut-être dire, OK, j'ai beaucoup de problèmes de malware par rapport aux extensions de Chrome, aux add-ons de Firefox, aux extensions de Safari. Donc, toutes les quelques minutes, je veux faire une requête. Puis c'est un langage qui ressemble, en fait, c'est du SQL. Donc, select all from Firefox add-ons, par exemple. Donc, ça va créer une table. Ça va domper cette table-là. Puis il va avoir la liste de toutes les extensions Firefox qui sont installées sur ce poste-là. Donc, c'est vraiment un concept qui est super simple, mais en tant que logiciel de sécurité endpoint, ça vous permet d'avoir vraiment beaucoup de visibilité. Puis c'est quelque chose qui est assez facile à déployer vraiment sur des très, très, très gros environnements parce que les requêtes, bon, on configure une cédule, mais ces requêtes-là sont faites localement sur chaque poste. Donc, comment vous allez récupérer ces logs-là? Mais normalement, vous avez déjà quelque chose qui est en place qui vous permet de faire ça. OS Query, ce n'est pas vraiment un système de logging, donc ça va les mettre localement. Mais vous allez ramasser ces trucs-là en JSON, puis après ça, ça devient vraiment, vraiment puissant. Donc, par exemple, sur Windows, il y a des tables pour les compatibilités applicatives. Donc, tous les shims, il y a une table qui vous permet de voir s'il y a des shims qui ont été loadés. Donc, des shims sont souvent utilisés par du malware pour établir la persistance. Donc, si vous voyez des nouveaux shims qui sont enregistrés, puis c'est pas relié à une mise à jour que vous avez fait, quelque chose comme ça, ça peut être vraiment intéressant. La même chose, faire une requête facile pour voir les drivers qui sont installés sur des postes Windows, c'est super facile. Au niveau Linux puis Mac, évidemment, tout ce qui est crontab, vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a qui est cédulé sur les postes, moi, c'est une requête assez simple. Les startup items d'un Mac, vous avez 1000 Mac, mais vous regardez les startup items, vous pouvez facilement savoir si vous avez déjà vu du malware qui enregistrait quelque chose au niveau du startup, bien, vous pouvez voir, OK, est-ce qu'il est apparu ailleurs? Il y a un paquet de packs qui ont déjà été faits, comme pour la sécurité, pour la conformité, des choses comme ça. Un paquet d'attaques Mac spécifiquement, pour lesquelles il y a déjà des requêtes qui existent. Donc, des fichiers plist, des trucs comme ça qui sont reliés à du malware déjà connu. Puis, ça supporte même Yara. Donc, si vous avez des règles Yara, vous voulez utiliser ça avec OS Query, c'est vraiment très facile. C'est facile à déployer sur des milliers de postes. C'est open source, c'est fiable. Même, je dirais que peut-être le plus gros désavantage, c'est que c'est tellement possible de faire beaucoup de choses avec. Des fois, ça devient un peu mélangeant, un peu overkill. Mais pour en ce qui est terme à des logiciels endpoint de sécurité, c'est vraiment dans les meilleurs. Puis en plus, c'est open source, fait que pourquoi pas. La seule chose, quand vous regardez les différents packs, les différentes queries, en général, sur le site, ça dit quel système d'exploitation est supporté. Parce qu'évidemment, il n'y a pas une parité à travers tous les systèmes d'exploitation. Donc, par exemple, il y a un module de File Integrity Monitoring. Donc, si vous avez besoin d'utiliser du File Integrity Monitoring pour des raisons de conformité, bien, ça peut être quelque chose que vous allez utiliser au lieu de dépenser de l'argent sur des solutions commerciales. Mais ça ne fonctionne pas encore sur Windows parce que ça utilise des fonctions quand même assez low-level, des file systems de Linux puis de Mac OS. Mais ça s'améliore de plus en plus côté Windows, donc je recommande fortement à tout le monde de l'essayer.
Excellent, merci. C'est vraiment un outil que j'avais déjà vu, puis j'ai me posé la question comment que c'était utilisé. Fait que c'est assez intéressant. As-tu une idée côté plus serveur, c'est-tu utilisable aussi? Genre quelqu'un qui voudrait gérer l'Active Directory ou quelque chose comme ça?
Bien, c'est sûr que côté Windows, il y a moins de fonctionnalités, mais ça s'améliore. Puis côté serveur en général, ben moi je l'ai vu utilisé sur des packs de des milliers, des dizaines de milliers de serveurs Linux. Mais en fait, c'est Facebook qui l'a créé. Évidemment, ça supporte Mac parce qu'ils en ont beaucoup, mais ils ont beaucoup de beaucoup, c'est un peu un understatement, là. Ils ont vraiment beaucoup de systèmes Linux aussi. Fait que ça peut absolument être utilisé aussi sur un système Linux. Puis tu sais, ce que j'aime, c'est que, par exemple, le File Integrity Monitoring, on sait que PCI DSS, si vous avez des cartes de crédit, demande de monitorer les fichiers, voir s'ils ne sont pas modifiés, des trucs comme ça. Il y a des solutions commerciales qui coûtent super cher, qui ne permettent pas de faire grand-chose d'autre, qui sont compliquées à déployer. Puis si on fait ça juste pour de la conformité, on n'a pas vraiment amélioré la sécurité. Tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui dépensent pour des outils juste pour faire ça. Alors que déjà sur Linux, il y a OSSEC qui permettait de faire ça. Maintenant, il y a OS Query qui permet de faire ça. Puis dans les deux cas, c'est des outils qui permettent de faire vraiment plus. Donc, au lieu de dépenser de l'argent sur des solutions commerciales qui sont pas mal limitées, il y a des trucs vraiment plus flexibles. Puis, je sais, ceux qui nous écoutent qui ont déjà travaillé dans des environnements très, 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 très gros, là, par exemple, des compagnies de web, Facebook, c'est un super bon exemple. Quand on a des centaines de milliers de serveurs Linux, il n'y a pas beaucoup de solutions commerciales qui fonctionne. Puis de toute façon, même s'il fonctionnait juste côté licence, ça devient des coûts qui sont vraiment exorbitants. Fait que oui, aussi, je recommanderais de l'utiliser côté serveur. Mais c'est certain qu'il n'y a pas beaucoup de features pour monitorer, par exemple, Active Directory spécifiquement. Là. Mais vous pouvez le mettre sur vos domain controllers. Ça vous permettrait de voir toutes ces tables-là pourraient fonctionner. Mais il n'y a pas encore beaucoup de trucs qui sont très, très spécifiques à Windows, sauf au niveau de la compatibilité, les shims. Tout ce qui est firewall local, donc par exemple, vous utilisez Mac, c'est le Application Layer Firewall sur Linux, IP Tables, tout ça. Vous pouvez faire des requêtes puis voir, ah, est-ce qu'il y aurait du malware qui a créé des nouvelles exceptions à mon firewall? Donc, vous faites l'agrégation de ça. Le secret, c'est vraiment, si vous avez déjà une bonne plateforme d'agrégation pour vos logs, ça va être assez facile de faire des requêtes, c'est bien formaté et tout ça. Si vous n'avez pas encore un bon endroit pour envoyer ces logs-là, ben là, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut peut-être régler ce problème-là en premier avant de vous lancer dans une solution endpoint comme OS Query. Parce que c'est sûr que les trucs commerciaux viennent souvent avec leur propre console et tout ça. Mais même si vous avez déjà d'autres outils endpoint commerciaux, comme par exemple Carbon Black, il existe des tables WestQuery spécifiquement pour, par exemple, vérifier que la configuration de Carbon Black est correcte. Donc, Carbon Black peut utiliser les événements de Emmet. Bon, mais avec WestQuery, vous pouvez rouler une requête à toutes les 20 minutes pour vous assurer que la configuration de tous vos agents Carbon Black est correcte. Fait que c'est une façon assez simple de vous assurer que ça fonctionne comme il faut et qu'il n'y a pas de malware qui l'a changé. Puis pour faire du incident response aussi, tu sais, quand on fait de la réponse aux incidents, savoir c'est quoi les process qui roulent, c'est quoi l'historique des shells, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a modifié les known hosts ou les authorized keys SSH, est-ce que mon host file a été changé, c'est des choses pour lesquelles il y a déjà des tables qui existent partout. Donc l'important, c'est quand vous le déployez, faites vraiment une bonne lecture de toute l'information qui est disponible. Choisissez ce que vous pensez qui pourrait être utile. Assurez-vous que tout ce qui est utile, vous le sélectionnez dès le début dans votre configuration. Puis après ça, faire quelques tests de performance parce que, bon, évidemment, ça pourrait être intéressant de faire un select all sur toutes les tables à toutes les 3 secondes, mais ce n'est pas nécessairement réaliste. Puis après ça, décider, bon, ben telle table, j'en ai pas vraiment besoin souvent. Telle autre table, j'en ai besoin peut-être aux 30 secondes, mais celle-là, j'en ai besoin juste aux 20 minutes, ou même aux heures, si c'est la liste des patch Windows qui sont installés, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment ça le secret. Prendre tout ce qu'on a besoin, mais avoir une fréquence qui est réaliste et qui n'est pas overkill.
Yes, exact. Mais c'est comme la plupart des trucs de logging. Faut pas tout prendre non plus. Là. C'est ça qu'on se retrouve dans beaucoup d'organisations qui font un select étoile dans tout leur parc informatique, puis ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas capables de gérer leur SEIM après. Ou
ouais, c'est ça. On va tout loguer, puis on verra ce qu'on veut faire avec après. En général, non. Ça ne marche pas.
Non, exact. T'es bien d'y aller un log à la fois, même si tu veux faire ça comme du monde. Là.
Ouais.
Cool. Merci beaucoup. Très intéressant. Dernier sujet, petit sujet de discussion, c'est un sujet que dans les dernières semaines, on a parlé un peu dans l'équipe du Hackfest, puis on a vu beaucoup de choses en ligne quand même bizarres arriver. Je voulais voir votre opinion reliée à ça. En fait, dans le domaine de la sécurité informatique, il y a beaucoup d'articles qui disent que d'ici quelques années, on va demander, il va manquer en fait même environ 100 000 de personnes dans le domaine. Mais on voit beaucoup de personnes en ligne puis certaines organisations quand même proches de nous faire des moves quand même bizarres. Puis même, on en a un qui a carrément dit sur un certain réseau social disant qu'il voulait engager seulement des seniors, les juniors sont pas assez bons, blablabla. Bla, bla. Qu'est-ce que vous pensez de justement tout le concept qui est de... Pour la relève, est-ce qu'on devrait plus focusser sur engager des juniors et les former ou se faire un gros budget pour aller voler les ressources dans les autres entreprises ou sinon, ben, pourquoi pas les deux? Là, mais...
Ben, je pense que, premièrement, il y a beaucoup de chiffres sur combien de spécialistes en sécurité informatique il va manquer. Là. Donc, par exemple, je pense que c'est ASC Square aux États-Unis qui disait « Ah, bientôt, il va en manquer 1 million, blablabla. Mm-hmm. » Je pense que la première chose qui est importante de réaliser, c'est que si tout ce qui est hygiène de sécurité, si on n'a pas des développeurs qui sont entraînés, qui savent comment développer du code qui est sécuritaire, si on n'a pas des administrateurs de systèmes qui font attention, ça ne sert à rien d'avoir une équipe de sécurité de 300 personnes dans une entreprise parce qu'il y a vraiment une réduction d'efficacité qui va se passer. T'sais, peut-être les 30 premiers vont vraiment avoir quelque chose d'utile à faire, mais à partir de 30 à 50, puis de 50 à 100, on ne réussira pas nécessairement à améliorer plus de choses que la quantité de problèmes qui se font créer par les autres personnes. Fait que personnellement, je ne crois pas trop aux énormes équipes de sécurité parce qu'en général, c'est pas mal plus efficace d'avoir des personnes dans chaque équipe qui sont conscients, qui connaissent la sécurité reliée à leur domaine. Par exemple, bon, mon équipe réseau connaît bien la sécurité réseau. Il y a une personne même qui est vraiment, vraiment intéressée. C'est comme le champion de la sécurité réseau là-dedans. Ça, je trouve que ça marche mieux que d'essayer de monter une grosse équipe de sécurité parce que dans le fond, au bout de la ligne, il y a 75% de la sécurité que c'est faire le développement puis les TI d'une façon qui est efficace puis de haute qualité. Puis pour qu'est-ce qui est des spécialismes, c'est certain qu'engager des seniors et plus haut, c'est assez difficile, il n'y en a pas beaucoup. Mm-hmm. Mais il faut quand même un mélange. T'sais, quelqu'un ne peut pas engager juste des gens qui sont juniors parce que ça prend plus qu'un senior
pour chaque... Le former, anyway.
Exactement. Mais sauf que...
C'est ça, par défaut.
C'est un domaine où c'est tellement varié. Quelqu'un peut être senior puis jamais avoir travaillé avec un... Par exemple, je parlais de WestQuery il y a 2 minutes. Ben, peut-être qu'un jeune sysadmin qui connaît super bien Linux, qui a déjà travaillé avec des logs, qui connaît Python, qui connaît Splunk, Il peut être très, très, très efficace à beaucoup de projets de sécurité, même s'il n'est pas considéré un expert senior en sécurité. Fait que moi, je pense que...
À ce moment-là, tu parles de transfuge. Fait que tu parles de gens qui ont déjà de l'expérience puis qui transfèrent en sécurité. Absolument. Versus du monde qui sort de l'école et veulent arriver en sécurité. C'est quand même... c'est pas exactement la même chose. J'en connais beaucoup de transfuges, si on veut, qui ont passé de la techno, puis j'en suis le premier d'ailleurs, de la techno vers la sécurité, puis ou vers du développement vers la sécurité. Puis c'est de fait des personnes qui ont une expertise très intéressante, mais personne ne veut payer pour former, puis tout le monde veut le super champion. Fait que, tu sais, ça crée une certaine dynamique qui nous aide pas personne.
C'est vraiment compliqué sur le marché. Je veux dire, il y a certaines entreprises qu'on a vues dernièrement qui veulent pas de juniors, ils veulent la perle qui n'existe pas parce qu'elle n'est pas disponible, évidemment, ou même juste que le rôle n'existe pas, tout simplement. Ça fait plusieurs années que le rôle est en demande dans la même entreprise. Mais s'il avait engagé un junior là, 3-4 ans, ben aujourd'hui, ben, il serait quand même pas pire. Là.
Ouais. Ben, le problème, c'est que tu peux pas embaucher un junior tout seul. C'est l'autre problématique, c'est qu'il faut que tu mettes un junior dans un terreau fertile où il y a des gens qui vont l'encadrer. Comme moi, je l'ai été quand j'ai plus débuté ma carrière, j'ai eu beaucoup de gens seniors autour de moi qui m'ont aidé à cheminer. Puis c'est cet aspect-là des choses qu'il va falloir qu'on accepte, qu'il faut qu'on mette, qu'on cultive des juniors dans une équipe de seniors pour les aider à progresser puis aller plus loin puis devenir meilleur.
Exact.
Ouais, ben, c'est certain que tu es d'un environnement où, par exemple, il y a beaucoup de managers qui n'ont aucune expérience technique. Ben, ça devient presque impossible. T'sais. On ne peut pas engager 5 juniors avec un manager qui n'a jamais travaillé en sécurité de manière technique puis assumer que tout le monde va juste s'améliorer. T'sais. Mais c'est pour ça que les transfuges, comme tu dis, ça peut être vraiment, vraiment pratique parce qu'ils ont de l'expérience qui est très, très, très connexe puis qui peut être utilisé. Parce que c'est assez difficile de commencer à travailler directement en sécurité, tu sais. C'est facile pour quelqu'un de dire, bon, ben, tu sais, encrypte ça, fais ça comme ça, configure tes systèmes de telle manière, ou développe tes trucs de telle façon. Mais si tu n'as jamais eu à le faire avant, tu n'as pas nécessairement une bonne compréhension de qu'est-ce que ça peut demander, tu sais. Fait que moi, j'aime vraiment ça, travailler avec des gens en sécurité qui ont déjà été des développeurs, qui ont déjà été des sysadmins.
Ben, j'ai fait les classes en tant que sysadmin, fait que moi-même, j'étais un transfuge de cette nature-là, fait que je comprends le chemin, puis j'étais entouré de gens, puis je pense qu'en sécurité, on cultive une certaine forme d'élitisme qui est néfaste, parce que je connais des gens, disons, en télécom, qui ont un bon mindset, qui sont intéressés à la sécurité, mais ils osent pas faire le saut du « ouais, mais j'ai pas d'expérience », puis ce que j'essaie de les pousser à comprendre, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir d'expérience en sécurité, tu as déjà d'expérience en télécom.
Exactement.
Et comme tu es robuste en télécom, puis tu as le mindset, de faire le switch à la sécurité va être un jeu d'enfant. Là.
Ben absolument. Puis tu sais, s'il y a des gens qui écoutent puis qui travaillent en TI, qui sont des développeurs puis qui seraient intéressés par faire le switch puis qui se disent bah, je suis pas assez bon, j'ai pas l'expérience, ben faites juste regarder le journal puis regardez toutes les compagnies qui se font hacker une après l'autre puis dites-vous que ces compagnies-là avaient presque toutes des assez grosses équipes de sécurité, puis en général, c'est pas assez, puis il y a toujours de la place pour quelqu'un de plus qui a une expérience spécifique. Mais c'est juste les gens qui engagent, essayez de mettre un peu moins de requis dans la liste. T'sais. Vous n'en trouverez pas là, des gens qui ont 10 ans d'expérience sur Linux, Windows, en tant que développeur, qui a utilisé les 14 plateformes de sécurité que vous utilisez à l'interne. C'est ça, je pense que c'est un des gros problèmes aussi, là, des compagnies qui cherchent vraiment quelqu'un qui connaît, par exemple, je sais pas, les firewall checkpoint. Mais tu sais, si vous trouvez quelqu'un qui est super bon avec les firewall Cisco puis qui est bon avec les firewall Palo Alto, ça me surprendrait qu'ils soient pas capables de se débrouiller avec des firewall checkpoint avec peu de documentation. Tu sais.
On fait un débat très intéressant parce que quand on demande à un ébéniste, est-ce que tu connais, tu sais travailler avec des tournevis étoiles et des tournevis carrés? Puis tu sais, c'est vraiment trop précis aussi dans ce genre de regard-là des choses. Ouais. C'est fascinant.
Moi, je prends vraiment que ça soit moins précis. Prenez quelqu'un qui est vraiment motivé, puis ça va avoir un bien meilleur résultat. C'est sûr que dans certains cas, vous avez un projet spécifique, vous engagez un consultant pendant 3 mois pour vous aider avec une plateforme de log. J'ai mentionné Splunk tantôt. Alors, vous déployez Splunk, bien, c'est certain que si vous prenez un consultant pendant 3 mois pour ça, vous n'en voulez pas un qui va vous dire ben, j'ai jamais touché à Splunk, mais je suis capable de l'apprendre. Mais si vous engagez quelqu'un pour plusieurs années, c'est vraiment juste une question de quelques semaines, quelques mois à s'habituer. Fait que moi, personnellement, j'ai plus tendance à vouloir engager des gens qui sont motivés que des gens qui ont des connaissances spécifiques. Puis si j'ai à choisir entre quelqu'un qui a 3 ans d'expérience, mais qui connaît des choses assez modernes, qui apprend vite, puis quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, mais vraiment juste sur une technologie spécifique, puis qui se dit expert en sécurité, mais c'est certain que le premier va m'intéresser plus que l'autre.
Ben, moi, je vais même plus aller plus loin que ça. Je regarde quelqu'un que le feu sacré, le restant, c'est-à-dire, on commence tous quelque part. J'ai moi-même commencé quelque part. Il y a quelqu'un qui m'a donné une chance à un moment donné de faire le switch, aller en sécurité. Puis de là, du moment que tu as le feu sacré, tu as la passion, tu tripes à ce que tu fais. Après ça, que tu ne connaisses pas une technologie X ou que tu ne connaisses pas le produit Z, c'est un détail.
Ah, absolument. Ça fait que tu vois quelqu'un. Exact. Je pense que les gens qui écoutent, par exemple, un podcast comme le nôtre, ben, c'est pas la moyenne des gens même qui travaillent en sécurité. Tu sais, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'entreprises où les départements de sécurité, c'est presque moitié conformité, gouvernance, tout ça. C'est pas nécessairement des gens qui ont la même passion pour tout ce qui est technique. Donc, vraiment, quelqu'un qui se tient à jour, c'est vraiment, tu sais, ça démontre un intérêt. Puis quelqu'un aussi qui utilise des solutions open source, qui se monte son lab chez eux, qui teste des trucs. Ah, j'ai installé Elasticsearch chez nous, j'ai essayé de tester ça. Ça démontre vraiment un niveau d'intérêt qui est supérieur. Puis c'est quelqu'un qui va probablement s'améliorer vraiment, vraiment rapidement versus quelqu'un d'autre qui cherche une job de 9 à 5 puis que c'est pas une passion. Là.
Exact. Puis même quand je donne des conférences dans les cégeps universités, puis on se fait poser la question justement comment faire travailler en sécurité, c'est le point principal que je dis, c'est vraiment d'en faire par soi-même. C'est pas juste d'avoir le diplôme puis de suivre les trucs standards. C'est quand tu arrives sur un CV ou en entrevue, puis tu es la personne qui est motivée, qui est intéressée, puis qui a fait des choses chez eux. Tu n'as pas besoin d'être un expert. C'est juste que ça paraît que tu t'impliques plus, que tu fasses des CTF, des projets, des labs et autres, versus la personne à côté de toi qui a le même cours mais qui n'a absolument rien fait. Mais on s'entend que c'est beaucoup plus winner dans ce sens-là. Là.
C'est ça. Puis quand vous voyez des jobs qui sont postés, ben, t'sais, comme on disait tantôt, il y en a qui sont là depuis plusieurs années, puis tout ça. Mais des fois, ça vaut la peine d'essayer, t'sais, même s'ils demandent 10 ans d'expérience. Si ça fait 18 mois qu'ils cherchent quelqu'un, ben, des fois, peut-être eux ne l'ont pas mis à jour, mais leurs attentes sont peut-être plus aussi hautes qu'elles étaient au moment où ils l'ont mis en ligne. T'sais, c'est pas tout le monde qui va aller mettre à jour les descriptions de jobs qui sont en ligne.
Mais il y a ça, mais tu parles de 10 ans d'expérience. En 2001, j'avais vu, puis là, on parle en 2001. Une offre d'emploi qui demandait d'avoir comme 15 ans d'expérience en sécurité logicielle.
Ouais.
Mais
ça, c'est un problème, je pense.
Je me suis juste comme écrasé de rire parce que qui avait fait ça? C'est 15 ans en 2001? On monte en 80.
Elle est 86. Hein? Mais c'est ça, je pense, un problème qui est assez commun en TI en général, pas juste en sécurité. Tu sais, la joke de oui, on cherche quelqu'un qui a 12 ans d'expérience avec Windows 2000 en 2002 ou quand Apple a sorti leur langage Swift, il y avait déjà des jobs qui demandaient 5 ans d'expérience avec Swift puis 10 ans avec Objective-C. Tu dis, OK, Swift est sorti il y a 2 mois. des recruteurs qui ont juste pas l'expérience, ils se font donner des listes puis ils peuvent pas savoir ce qui a du sens là-dedans ou pas. Fait que, ouais. Moi, ce que je dirais, c'est quand vous voyez des descriptions comme ça qui ont pas trop d'allure, essayez de trouver, si vous connaissez quelqu'un qui travaille pour l'entreprise ou quelque chose comme ça, pour trouver une manière de passer à travers les filtres automatiques ou semi-automatiques des recruteurs, rendre votre CV à bonne place. Puis souvent, surtout les très, très grandes entreprises, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus efficace. Donc, c'est pas parce que le premier layer effacerait votre CV en le recevant parce que vous avez 7 ans d'expérience au lieu de 8 que si vous étiez capable de l'envoyer, il serait pas accepté. Puis surtout si vous avez un site GitHub, vous avez fait des outils de sécurité, vous avez trouvé des vulnérabilités dans quelque chose, vous avez fait des conférences quelque part, mais assurez-vous que vous l'écrivez aussi parce que c'est quelque chose qui peut justement démontrer la motivation. Fait que moi, personnellement, je trouve que les entreprises qui essaient juste d'engager juste des seniors, ben ce qui risque de leur arriver, c'est que les seules personnes qu'ils vont trouver, ben, c'est parce qu'ils vont mieux payer que l'endroit où ces personnes-là étaient. Éventuellement, il y a quelqu'un qui va mieux payer qu'eux, puis ces personnes-là vont partir. Puis s'il n'y a pas l'amélioration continue de d'autres personnes qui sont dans l'équipe pour remplacer ceux qui s'en vont, puis tout ça, ben, si tout le monde s'en va d'un coup, ben, merci, bonjour, puis on recommence à zéro. Hein.
Oui, mais même au-delà de ça, il y a l'autre aspect aussi, parce que là, tu parles de passer à travers les filtres. Ça, c'est l'autre côté, c'est qu'il faut se faire un réseau de contacts. Se faire un réseau de contacts, ça veut dire de s'impliquer, ça veut dire d'être visible, ça veut dire de participer à des événements. Là, je parle dans le cadre du Hackfest, mais d'être à présent au Hackerspace, s'impliquer dans les CTF, s'impliquer dans les choses, se faire des contacts avec du monde qui travaille dans l'industrie est probablement la meilleure façon de dépasser ces espèces de critères RH que personne ne comprend vraiment, là.
Écrivez CISSP en blanc sur blanc quelque part pour être sûr que le GREP va le voir.
Hein? Il y avait beau penser. Mais un autre point, le hacker mindset, avoir le mindset de penser croche et tout ça pour vos transfuges et autres, pensez-vous que c'est un bloquant ou?
Je pense pas qu'on a la même définition de penser croche.
Ben, non.
D'avoir le mindset pour être capable de réfléchir et pouvoir se trouver la réponse où est-ce qu'elle est quand tu le sais pas. Ça, à quelque part, c'est ce qu'on voit beaucoup à ma job, là, dans le fond, c'est qu'on faut être capable que les gens ont tendance bien souvent à pas se forcer à essayer de trouver quelque chose. Fait que dans le fond, il suffit trop à pouvoir avoir la réponse, à se faire tenir par la main. Et c'est ce qui est un problème en bout de ligne. Si tu as une personne qui est capable de pouvoir, ça a l'air plate, mais réfléchir par elle-même, puis être capable de pouvoir trouver l'information où est-ce qu'elle est. T'sais, on s'entend, là, on rit bien, mais Google, on trouve l'information, mais souvent, si on sait comment chercher, Google peut servir à personne si la personne ne sait pas chercher. Fait que, c'est juste, ça, c'est un exemple qu'on peut voir. Et si la personne en tant que telle est capable de pouvoir se débrouiller, déjà là, elle a déjà un avantage, là.
Yes, ça fait du sens. Non, c'est ça. Je pense que le point d'avoir beaucoup de motivation puis avoir le concept, oui, de se débrouiller, comme tu expliques, fait du sens. Mais l'autre, en même temps, tu sais, analyse de sécurité et autres, on a un peu le mindset de chercher les problèmes partout. C'est un peu dans ce sens-là, je le parlais aussi. Là. Mais, exact.
Puis il y a peut-être juste la réalité aussi que c'est pas tout le monde qui est aussi intéressé par la sécurité que nous. Fait que
Non, puis même, tu sais, un des points, c'est pas parce que tu es en sécurité, que tu travailles même en sécurité, que tu es vraiment intéressé à t'impliquer puis à faire plein de choses. Là. C'est pas parce que tu travailles dans un certain domaine que tu vas avoir un GitHub, que tu vas aller à des événements et autres.
C'est ça.
Mais là, on parlait quand même de percer les frontières, les filtres RH. Fait que si tu veux percer les filtres RH, c'était quand même quelque chose à démontrer plus que ton expérience, à démontrer plus loin que ça là, aussi. Fait que c'est
quand
ça,
on dit percer les filtres RH, là, on veut pas dire envoyer un fichier Word malicieux avec un interpreter dedans. Là. C'est pas de ça qu'on parle.
Non, absolument pas. C'est vraiment juste de trouver une façon que le gestionnaire soit en mesure de voir la candidature avant que les RH les filtrent.
Exact. Shameless plug, merci.
Gang de fous.
Guillaume. Yes, toujours. Non, c'est ça. Ça vous semble de vous intéresser, si vous êtes intéressé plutôt à vous impliquer, mais aussi à suivre tout ce qui se passe, mais sur le site web du Hackfest, sous le menu contact, il y a notre super mailing list. C'est ça, cette semaine, en fait, on a posté une job d'un de nos partenaires, donc ça peut être un bon endroit pour voir les choses, les hackerspace, tout ce qui se passe, mais c'est vraiment une bonne idée de vous impliquer, communauté, oui, mais aussi dans des projets que vous l'idez vous-même, et non pas des projets que les autres font à votre place. C'est un peu ça le point, je pense, qu'on vient de dire. Donc, ça fait pas mal le tour. Est-ce que vous avez d'autres sujets, messieurs, ou d'autres points à ajouter? All right. Donc, c'est la fin de la première épisode de la French Connection. Ça va être une fois par mois. Nous, on enregistre une fois par mois la troisième semaine. Ça va être réalisé sur le site web security.fm.
Et c'est security.fm, by the way.
Ouais, sécurité, en français, avec un E et pas de E, parce que ça n'existe pas encore.
Ben, ça existe. Mais
Il y en a.
C'est le pire domaine jamais inventé. C'est que c'est security.fm.
Security.
C'est toi qui feras l'ouverture la prochaine fois avec security.
Security.fm.
Donc, merci tout le monde et au mois prochain.
Over and out.
Yeah.